Chapitre 5. Le saule cogneur. La fin des vacances d'été arriva trop vite au goût de Harry. Bien sûr, il avait hâte de retourner à Poudlard, mais le mois qu'il avait passé au Terrier était le moment le plus heureux de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine jalousie à l'égard de Ron en pensant à l'existence que lui avaient fait mener les Dursley et aux gens d'accueil qu'il recevrait en guise de bienvenue la prochaine fois qu'il se montrerait à Privet Drive. La veille de la rentrée, Madame Wesley fit apparaître par magie un somptueux dîner qui comportait les plats préférés de Harry, ainsi qu'un délicieux gâteau à la crème. Pour terminer la soirée en beauté, Fred et George firent exploser des pétards du docteur Phoebus en un véritable feu d'artifice, remplissant la cuisine d'étoiles rouges et bleues qui rebondirent sur les murs et au plafond pendant une bonne demi-heure. Ils burent ensuite une dernière tasse de chocolat avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, ils mirent longtemps à se préparer. Ils s'étaient tous levés au chant du coq, mais ils avaient encore beaucoup à faire. Madame Wesley surgit de très mauvaise humeur, cherchant des chaussettes et des plumes. Tout le monde se cognait dans l'escalier, à moitié habillé, un morceau de toast dans la main. Monsieur Wesley faillit même se rompre le cou en trébuchant contre un poulet alors qu'il traversait la cour pour mettre la valise de Ginny dans la voiture. Harry ne voyait pas comment 8 personnes, 6 grosses valises, 2 hiboux et 1 rat allaient bien pouvoir tenir dans une petite Ford Anglia. Mais c'était compté sans les aménagements très particuliers que Monsieur Wesley lui avait apportés. « Pas un mot à Molly, surtout !» chuchota-t-il à l'oreille de Harry en ouvrant le coffre que quelques tours de magie lui avaient permis d'agrandir suffisamment pour y ranger toutes les valises. Madame Wesley et Ginny prirent place sur le siège avant qui avait la taille d'un banc public tandis que la banquette arrière offrait suffisamment d'espace à Harry, Ron, Fred, George et Percy pour s'y asseoir confortablement.
« Finalement, les moldus sont beaucoup plus astucieux qu'on ne le pense, vous ne trouvez pas ?» remarqua Madame Wesley. « Quand on voit cette voiture de l'extérieur, on dirait jamais qu'il y a autant de place à l'intérieur. »
Monsieur Wesley mit le moteur en marche et la voiture traversa la cour en cahotant. Harry se retourna pour regarder une dernière fois la maison. À peine avait-il eu le temps de se demander quand il la reverrait qu'ils étaient déjà de retour. George avait oublié sa boîte de pétards du docteur Flibuste. 5 minutes plus tard, il s'arrêtait à nouveau au milieu de la cour dans un crissement de pneus et Fred se précipitait dans la maison pour y chercher son balai volant. Ils avaient presque atteint l'autoroute lorsque Ginny poussa un hurlement perçant en annonçant qu'elle avait oublié son journal intime. Quand elle remonta dans la voiture, ils étaient déjà très en retard et l'énervement était à son comble. Monsieur Wesley, après avoir jeté un coup d'œil à sa montre, se tourna vers sa femme.
« Molly, ma chérie, je crois que nous irons plus vite si... »« Non, Arthur !» répliqua Madame Wesley. « Personne ne nous verrait. Le petit bouton que tu vois là commande un réacteur d'invisibilité que j'ai installé. Nous pourrions décoller instantanément, voler au-dessus des nuages et en 10 minutes nous serions arrivés sans que personne s'en aperçoive. » « Arthur, j'ai dit non. Pas en plein jour. »
Ils arrivèrent devant King's Cross à 11h15. Monsieur Wesley se précipita pour aller chercher des chariots à bagages et ils s'engouffrèrent à grands pas dans la gare. Harry avait déjà pris le Poudlard Express l'année précédente. La difficulté consistait à trouver la voie 9 3/4 qui n'était pas visible aux yeux des Moldus. Pour y accéder, il fallait traverser la barrière qui se dressait entre les voies 9 et 10. C'était indolore, mais on devait faire attention que les Moldus ne remarquent rien.
« Percy, Basil Ier ?»
dit Madame Wesley, le front soucieux, en voyant sur la grosse pendule de la gare qu'il ne leur restait plus que 5 minutes pour franchir la barrière comme si de rien n'était. Percy s'avança d'un pas décidé et disparut. Monsieur Wesley, Fred et George le suivirent.
« J'y vais avec Ginny et vous deux, vous passez tout de suite après, » dit Madame Wesley à Harry et à Ron.
Elle attrapa Ginny par la main et fonça vers la barrière. En un clin d'œil, toutes deux avaient également disparu. « Viens, on y va ensemble, il nous reste à peine 1 minute, » dit Ron à Harry. Harry s'assura que la cage d'Elvige était solidement calée sur sa valise et fit tourner le chariot face à la barrière. Il était parfaitement sûr de lui. C'était beaucoup moins difficile que de prendre la poutre de cheminette. Penchés sur leur chariot, Ron et lui s'avancèrent côte à côte vers la barrière en marchant de plus en plus vite. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 1 mètre, ils se mirent à courir et... Les deux chariots heurtèrent la barrière de plein fouet et le choc les fit rebondir en arrière. La valise de Ron tomba avec un grand bruit. Harry fit un vol plané et la cage d'Edwige roula sur le sol dans un grand vacarme de ululements indignés. Tous les regards se tournèrent vers eux et un vigile se précipita en hurlant.
« Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux ?»«
J'ai perdu le contrôle de mon chariot, » répondit Harry qui se releva péniblement en frottant ses côtes endolories.
Ron courut ramasser la cage d'Edwige qui poussait de tels hurlements que certains voyageurs commençaient à marmonner des commentaires sur les mauvais traitements infligés aux animaux.
« Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à passer ?» chuchota Harry à l'oreille de Ron.
« T'en fais rien !»
Ron lança des regards inquiets autour de lui. Une douzaine de personnes continuaient de les observer.
« On va rater le train !» murmura Ron. « Je comprends vraiment pas pourquoi le passage est resté fermé !»
L'estomac contracté, Harry leva les yeux vers l'horloge géante. Plus que 10 secondes. 9 secondes. Avec précaution, il amena son chariot jusqu'à la barrière, puis il poussa de toutes ses forces. Le métal restait infranchissable. 3 secondes. 2 secondes. 1 seconde.
Ça y est. Le train est parti,
dit Ron consterné.
Et si jamais mes parents ne peuvent pas repasser dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? T'as de l'argent de moldu?
Harry eut un rire amer.
Ça fait à peu près 6 ans que les Dursley ne m'ont pas donné d'argent de poche.
Ron colla l'oreille contre le métal glacé de la barrière.
20 ans, rien du tout, dit-il d'une voix tendue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me demande combien de temps il faudra à mes parents pour venir nous retrouver.
Ils regardèrent autour d'eux, des badauds continuaient de les observer, attirés par les cris stridents d'Edwige.
Il vaut mieux qu'on aille les attendre près de la voiture, dit Harry.
On se fait un peu trop remarquer ici.
Harry!
S'exclama Ron, le regard soudain brillant.
La voiture!
Quoi, la voiture?
On peut la faire voler jusqu'à Poudlard.
Tu crois?
On est coincé, non? Faut bien qu'on trouve le moyen d'aller à l'école. Or, même les sorciers de premier cycle ont le droit de faire usage de la magie en cas d'urgence. Chapitre 19 du code de restriction.
Harry sentit brusquement la panique faire place à l'excitation.
Tu saurais la faire voler? Aucun problème, assura Ron en tournant son chariot vers la sortie. Allons-y, si on se dépêche, on pourra rattraper le train et le suivre jusqu'à Poudlard.
Et ils s'élancèrent à travers le hall, enfant dans la foule des moldus intrigués. Lorsqu'ils eurent rejoint l'Anglia, Ron ouvrit le coffre gigantesque en tapotant la carrosserie avec la baguette magique. Ils y rangèrent leurs valises, posèrent la cage d'Edwige sur la banquette arrière et s'installèrent à l'avant.
« Vérifie que personne ne nous regarde, »
dit Ron en faisant démarrer le moteur d'un autre coup de sa baguette magique. Il y avait de la circulation sur l'avenue un peu plus loin, mais la rue dans laquelle se trouvait la voiture était déserte.
« Tu peux y aller, » dit Harry.
Ron appuya sur un petit bouton argenté aménagé dans le tableau de bord. Aussitôt, la voiture disparut. Et eux aussi. Harry sentait le siège vibrer sous lui. Il entendait le moteur, sentait ses mains sur ses genoux, ses lunettes sur son nez, mais tout ce qu'il voyait, c'était la rue sinistre qui s'éloignait au-dessous d'eux, tandis que la voiture invisible s'élevait dans les airs.
« Allons-y, plein gaz !»
Les immeubles alentour sortirent de leur champ de vision. Bientôt, ils virent toute la ville de Londres s'étaler sous leurs yeux, baignée de brume et de lumière. Il y eut alors un petit bruit et la voiture réapparut en même temps que Ron et Harry.
« Oh oh !» dit Ron en appuyant sur la commande du réacteur d'invisibilité. « On dirait qu'il a dératé. »
Ils se mirent à deux pour marteler le bouton. La voiture disparut, puis réapparut comme s'il y avait un faux contact.
« Tiens-toi bien !»
cria Ron. Et il écrasa l'accélérateur. La voiture fonça droit dans les nuages bas qui s'étiraient sur la ville et ils plongèrent dans un brouillard grisâtre.
« Et maintenant ?» dit Harry en regardant la masse compacte des nuages qui les enveloppaient. « Il faut qu'on repère le train pour savoir dans quelle direction aller. »
Redescends un peu. Ils repassèrent sous la couche des nuages et se tordirent le cou pour observer le sol.
« Ça y est, je vois !» s'exclama Harry. « Juste devant nous, là-bas »
Le Poudlard Express filait au loin comme un serpent écarlate.
« Plein nord !»
dit Ron en jetant un coup d'œil à la boussole du tableau de bord. « Il suffira de vérifier toutes les demi-heures qu'on est dans la bonne direction. » Et la voiture remonta en flèche, traversant la couche de nuages pour voler en plein soleil.
« Faut faire attention aux avions maintenant !» dit Ron.
Ils échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Pendant un long moment, il leur fut impossible de retrouver leur sérieux.
C'était comme s'ils avaient plongé dans un rêve fabuleux. On ne pouvait imaginer meilleure façon de voyager, songea Harry. Voir défiler des tourbillons de nuages aux formes extraordinaires en restant bien au chaud dans la voiture sous un soleil éclatant avec des caramels plein la boîte à gants et la joie de pouvoir contempler dans quelques heures l'expression envieuse de Fred et de George lorsqu'ils feraient un atterrissage spectaculaire sur la vaste pelouse de Poudlard.
Régulièrement, il descendait sous la couche de nuages pour vérifier que le train était toujours en vue. Londres était loin à présent et le paysage changeait sous leurs yeux. La verdure des prés avait laissé place à des landes aux couleurs pourpres. On apercevait tour à tour des villages avec de minuscules églises et des villes plus grandes, sillonnées de voitures qui ressemblaient à des insectes multicolores. 7 heures plus tard, cependant, Harry dut s'avouer que le temps lui paraissait long. Les caramels leur avaient donné soif, ils n'avaient rien à boire. Ron et lui avaient enlevé leur pull-over, mais le t-shirt de Harry collait au dossier de son siège et ses lunettes glissaient sans cesse au bout de son nez couvert de sueur. La forme des nuages lui était devenue indifférente et il songeait avec envie au jus de citrouille bien frais qu'une sorcière poussant un chariot servait à des kilomètres au-dessous d'eux dans le Poudlard Express. Pourquoi donc n'avait-il pu accéder à la voie 9 3/4? Ça doit plus être très loin maintenant, dit Ron d'une voix enrouée tandis que le soleil descendait sur la couche de nuages en les baignant d'une lueur rose. « On va jeter un coup d'œil au train. Prêt ?» L'express était toujours là, serpentant entre les montagnes aux sommets enneigés. Il faisait beaucoup plus sombre sous les nuages. Ron enfonça l'accélérateur et reprit de l'altitude. Mais le moteur commença à peiner en émettant une sorte de plainte. Harry et Ron échangèrent un regard inquiet. « La voiture doit être un peu fatiguée, » dit Ron. « Elle n'a jamais parcouru une aussi longue distance. »
Tous deux firent semblant de ne pas remarquer que la plaine du moteur devenait de plus en plus intense, tandis que le ciel s'assombrissait.
Des étoiles commençaient à éclore dans l'obscurité. Harry remit son pullover, essayant de ne pas prêter attention aux essuie-glaces qui oscillaient faiblement, comme pour exprimer leur protestation. « On approche, » dit Ron, qui parlait plus à la voiture qu'à Harry. « Il n'y en a plus pour longtemps. »
Il tapota le tableau de bord d'un geste un peu nerveux. Lorsqu'ils redescendirent sous les nuages, ils scrutèrent l'obscurité pour essayer de repérer sur le sol un endroit familier.
« Là !» s'écria soudain Harry en faisant sursauter Ron et Edwige. « Tout droit !» Se découpant dans la pénombre de l'horizon, les nombreuses tours du château de Poudlard se dressaient au sommet de la falaise qui dominait le lac. La voiture, cependant, s'était mise à vibrer de toutes parts et perdait de la vitesse.
« Allons, on arrive !» dit Ron d'un ton cajoleur en donnant au volant une petite secousse.
Le moteur grogna et de petits jets de vapeur sortirent de sous le capot. Machinalement, Harry se cramponna au bord de son siège. La voiture descendait vers le lac. Soudain, elle oscilla dangereusement. Par la vitre, Harry voyait la surface noire, lisse et luisante du lac qui s'étendait à quelques centaines de mètres sous eux. Ron avait les mains crispées sur le volant. À nouveau, la voiture oscilla. « Du calme !»
murmura Ron. Ils étaient au-dessus du lac et le château se dressait droit devant eux. Ron écrasa l'accélérateur.
Il y eut un grand bruit de ferraille, le moteur se mit à tousser, puis il s'arrêta complètement. « Oh !» dit Ron dans le terrible silence qui régnait à présent.
La voiture piqua du nez. Il tombait de plus en plus vite, enfonçant droit sur la muraille du château.
« Non !» hurla Ron en tournant désespérément le volant. La voiture décrivit une grande courbe, évita le mur d'extrême justesse et poursuivit son vol au-dessus des serres, du potager, puis de la pelouse en perdant de plus en plus d'altitude. Ron lâcha le volant et sortit la baguette magique de sa poche. « Stop, stop, stop !» Il donna de grands coups de baguette sur le tableau de bord et le pare-brise, mais la voiture poursuivit sa descente inexorable. Le sol se rapprochait. « Attention à l'arbre !» s'écria Harry qui plongea sur le volant. Mais trop tard. Bon, ping, pom, plaf! Dans le vacarme assourdissant de la tôle s'écrasant contre l'énorme tronc, la voiture percuta l'arbre de plein fouet et tomba lourdement sur le sol dans un panache de vapeur qui s'élevait du capot en accordéon. Edwige poussa des cris de terreur. Une bosse de la taille d'une balle de golf apparut sur le front de Harry à l'endroit où il avait heurté le pare-brise et Ron laissa échapper une plainte déchirante.
Ça va? Demanda précipitamment Harry. Ma baguette, répondit Ron d'une voix tremblante. « Et regarde ma baguette magique !»
Elle était presque cassée en deux. Son extrémité pendait lamentablement, à peine retenue par quelques fibres de bois.
Harry ouvrit la bouche pour dire que quelqu'un pourrait sûrement la réparer à l'école, mais il n'eut pas le temps de prononcer le moindre mot. Au même moment, quelque chose frappa le flanc de la voiture avec la force d'un taureau en pleine charge et projeta Harry contre Ron. Il eut presque aussitôt un autre coup sur le toit. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ron eut un hoquet de terreur, le regard fixé devant lui. Harry vit juste à temps une branche de l'épaisseur d'un gros piton s'abattre sur le pare-brise. L'arbre contre lequel il s'était écrasé était en train de les attaquer. Son tronc s'était penché en avant et ses branches noueuses martelaient férocement la voiture. Aaaaaah ! S'écria Ron alors qu'une grosse branche enfonçait violemment la portière. Des rameaux déchaînés faisaient trembler le pare-brise sous leurs coups et une énorme branche tambourinait sur le toit qui commençait à se creuser dangereusement. « Sauf qui peut !» hurla Ron en pesant de tout son poids contre la portière. Mais un vigoureux uppercut d'une autre branche le projeta contre Harry. « On est fifu !» marmonna-t-il tandis que le toit s'enfonçait de plus en plus. À ce moment, le plancher de la voiture se mit à vibrer. Le moteur s'était remis en marche. « Marche arrière !» cria Harry. La voiture recula aussitôt, mais l'arbre ne se calma pas pour autant. Ils l'entendirent craquer comme s'il essayait de se déraciner pour les poursuivre, en continuant de donner des coups de branche en tous sens. Mais la voiture était à présent hors de portée.
« Était-moi une, » dit Ron d'un ton haletant. « Bravo, la voiture !» L'Anglia, cependant, était à bout de force. Les portes s'ouvrirent dans un grincement de ferraille et Harry fut basculé vers l'extérieur, atterrissant à plat ventre, les bras en croix sur le sol humide. Avec un bruit sourd, la voiture éjecta leurs bagages du coffre arrière. La cage d'Edwige fut projetée au dehors et tomba par terre en s'ouvrant sous le choc. La chouette s'envola dans un grand cri de colère et fila à tire-d'aile en direction du château, sans un regard en arrière. Lacérée, cabossée, fumante, la voiture s'éloignait en cahotant dans les ténèbres, ses feux arrière rougeoyants de fureur.
« Reviens !» cria Ron. « Papa va me tuer si tu t'en vas !»
Il lui courut après en brandissant sa baguette cassée, mais la voiture disparut dans une dernière pétarade de son pot d'échappement.
« Tu parles d'un coup de sens ?» dit Ron d'une voix consternée en se penchant pour ramasser Croutard, son rat.
« Parmi tous les arbres du parc, on a choisi de s'écraser contre celui qui rend les coups. »
Il jeta un regard au vieil arbre qui continuait d'agiter ses branches d'un air menaçant. « Viens, » dit Harry d'un ton là, « on ferait mieux de rentrer à l'école.